ensemble. Ça ne se sépare pas. L'Église, au cours des siècles, a été touchée par ces différents mouvements, et cela a influencé le monde chrétien et les débuts de l'Église. Alors, je ne suis pas juste en train de videment critiquer la pensée grecque, hein, parce que on est vraiment dans une pensée grecque, si vous vous en rendez compte. Mais je pense que pour pouvoir vivre pleinement pour Dieu, il faut qu'on ait un renouvellement de notre intelligence et de notre esprit pour bien comprendre les choses. Quand je disais que nos cerveaux allaient chauffer, je ne blague pas. Si je lis dans la Bible sans l'esprit, mais je ne lis pas la parole de Dieu. Il faut que j'aie une relation avec l'Esprit Saint, et alors ces mots, ils prennent vie. Ça devient la parole de Dieu. Et je pense que le Saint-Esprit peut venir renouveler notre pensée pour nous aider à comprendre les choses spirituelles que naturellement on ne serait pas capable de comprendre à cause de notre manière de penser. Je voudrais illustrer ça par une histoire dans la Bible. Pour illustrer que la philosophie d'un peuple les rendait pas toujours perméables au message de Jésus. On va prendre Matthieu 10 ensemble. Une des choses qui caractérise Jésus dans les évangiles, c'est qu'il disait toujours des choses qui mettaient ses disciples vraiment mal à l'aise. C'était quelqu'un d'influent que les gens écoutaient et il ne disait pas les choses qui plaisaient. Je reprends Matthieu 10 au verset 17. C'est l'histoire d'un homme riche face à Jésus. Regardons qu'est-ce que la parole nous dit. Ah, excusez-moi, c'est Marc 10. Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. L'homme riche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Maintenant, il faut bien se rendre compte que Jésus est entouré de ses disciples, d'une foule, et il y a un homme qui vient à ses pieds, et qui lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Son public est bien juif, on est d'accord. » Alors, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne d'autre que Dieu est bon. » Il continue, « Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne connaîtras pas de meurtre, tu ne connaîtras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 6 commandements sur 10, voilà ce que Jésus vient de lui dire. 6 commandements sur 10. Et alors, le jeune homme répond, enfin l'homme ici répond, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Alors, soit c'était vraiment un homme saint, soit c'était un menteur, je ne sais pas. L'ayant regardé, Jésus l'aima. Ça, je trouve ça magnifique. Jésus l'aima, l'ayant regardé, et lui dit, « Il te manque une chose. » Alors, je ne sais pas si je suis fort en maths, mais je sais que 10 moins 6, ça fait 4, et que s'il y a 10 commandements et que Jésus en cite 6, il en manque 4. Pourtant, Jésus, il dit, il te manque une seule chose. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est que des 6 commandements que Jésus vient d'énoncer, tu n'auras pas d'autre Dieu comme idole, un vraiment des plus difficiles, ça, il n'est pas dit. Hein. Et pourtant, Jésus continue, il te manque une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux de Dieu. Alors on a ici les disciples qui ont une réaction tout à fait normale pour les juifs de l'école. Les juifs de l'époque. J'avais cité auparavant que les juifs voyaient les richesses comme une bénédiction de Dieu. Et Jésus vient de dire, en plus d'avoir complètement mal utilisé les commandements, première erreur de Jésus, en plus il vient dire qu'un homme riche n'entre pas dans le royaume de Dieu. Jésus ne comprend rien à la Bible. Hein. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent plus encore étonnés, se dirent les uns les autres, « Qui donc peut être sauvé ? Mais s'il est riche, ces hommes bénis de Dieu, ces hommes saints, parce que s'ils sont riches, c'est qu'ils sont saints, puisque Dieu les a bénis. S'il est riche, qui ont le temps d'aller à l'école rabbinique, qui ont le temps d'étudier la parole de Dieu, de l'apprendre par cœur, de donner au temple, d'aller à l'église tous les dimanches, si eux, ils ne vont pas dans le royaume de Dieu, qui va y aller, Seigneur ?» Jésus les regarda et il dit ceci, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que la façon dont les Juifs perçoivent la sainteté, c'est pas la façon dont Dieu y voit la sainteté. Voilà exactement ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, c'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il est nécessairement béni. C'est marrant, ici on a la pensée grecque qui va tout à fait à l'opposé. On tombe parfois dans des travers où tout ce qui est matériel est mauvais. Maintenant, si vous dormez dans votre lit ce soir, vous comprendrez que le matériel n'est pas toujours mauvais puisque votre lit est confortable et que c'est bien de dormir dans son lit. Et puis on tombe ici dans le travers totalement opposé où tout ce qui est matériel veut dire bénédiction. Ici on a l'illustration d'un peuple qui était coincé dans son mode de pensée et ne pouvait pas il manquait de perméabilité par rapport au message de Dieu. Le mot-clé pour moi de ce passage, c'est Jésus qui dit « Viens et suis-moi ». Il y a aussi un commentaire « Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi ». Je trouve ça magnifique, parce que alors que j'étais en train d'étudier un petit peu cette prédication et de voir un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce matin, j'ai eu un moment donné où j'étais s'il faut penser à tout ça pour bien écouter Dieu, ça ne va pas être facile. Et j'ai eu senti ce Saint-Esprit qui disait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, Jésus, tout ce qu'il nous demande, c'est viens et suis-moi. Et le reste suivra. Donc, alors qu'on va entrer dans l'étude de trois erreurs de l'Église, je vois bien que vous soyez rassurés. La chose principale, c'est de suivre Jésus. Le reste, il suit. La première fois, pensée que je voudrais voir avec vous, c'est ce qu'on appelle le gnosticisme, qui est directement lié de cette influence grecque. En 200 après Jésus, il y avait un groupe de gens qui s'appelaient les gnostiques et qui avaient vraiment une théologie bizarre, je ne blague pas. Ils voyaient le Dieu de l'Ancien Testament comme un démon. Le Dieu de l'Ancien Testament comme un démon. Je suis certain, dans cette pièce, on s'est tous posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde si Dieu est bon ? Ok ? On s'est tous posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde si Dieu est bon ? Les gnostiques ont trouvé la réponse en disant, le monde a été créé par un être mauvais, ok ? Ce Dieu de l'Ancien Testament, je ne blague pas, hein, c'est vrai ce que je dis. Le monde a été créé par un être mauvais, et Jésus, un ange proche de Dieu, est venu sauver l'humanité de ce mauvais Dieu. Alors évidemment, ce que je viens de dire là est tout à fait contraire à ce que la parole nous enseigne. C'est bien sûr contraire à ce que Dieu nous dit. Les gnostiques, ils vont vraiment séparer l'âme et le corps, mais pour eux, pour arriver à avoir le salut, ça partait sur la connaissance. La connaissance allait libérer le corps. Le corps était quelque chose de mauvais, qui était vraiment de ce monde de pécheurs, de ce monde créé par cet être maléfique. Et la connaissance allait ce qui les amenait vers le vrai Dieu. Vous savez, on a cette pensée grecque, mais sans même s'en rendre compte. On a l'habitude de tout séparer par des opposés. Le pasteur, il travaille pour Dieu, moi, je suis juste chrétien. Alors le pasteur, lui, travaille pour Dieu, et moi, chrétien, non, je suis pas pasteur, moi. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, je ne suis pas pasteur, moi. Mais je voudrais bien de faire rendre compte que Pascal, le pasteur, est aussi chrétien. Ah, il y a des gens surpris. Parfois, on a l'habitude de séparer notre pensée pour pouvoir interagir avec le monde. Et malheureusement, on sépare des choses qui ne devraient pas être séparées. Je continue. Une deuxième erreur qui était également apparue dans l'Église, c'était ce qu'on appelait l'ascétisme. Puisque le corps est mauvais, puisque toutes ces choses-là sont mauvaises, autant renoncer à toutes les choses de la chair qui n'est là que pour nous faire souffrir. Tout ce que peut la chair peut nous offrir comme plaisir est mauvais. Voilà ce que l'ascétisme nous dit. Ceci a été beaucoup été développé dans le domaine de la sexualité. Le fait que la sexualité a été à un moment donné vue par l'Église comme quelque chose de mauvais est directement lié à cette pensée ascétique. Le sexe étant perçu comme quelque chose de mauvais, alors que si on regarde dans la pensée juive, tout plaisir est une grâce de Dieu. Avez-vous rencontré des chrétiens qui pensaient un peu comme des ascètes? Ils veulent se priver de tout. Tout ce qui vient de eux est mauvais, et tout ce qui vient de Dieu est bon. Et malheureusement, quand on est dans cette optique-là, on ne prend jamais de décision et on ne fait jamais rien parce qu'on a peur de tout. Ce n'est que partiellement vrai. Dieu, il nous demande une collaboration avec nous. Il ne faut pas penser que tout ce qui sort de notre personne, même si on est cet état pécheur, c'est pas nécessairement mauvais. On a été créé à l'image de Dieu, il y a des bonnes choses. Lorsqu'un artiste fait une peinture, il exprime ce qu'il ressent. C'est quelque chose de bon, c'est pas quelque chose de mauvais nécessairement. L'étincelle créatrice est quelque chose de bon. Et dans cette nouvelle relation avec Dieu que nous on a, c'est Dieu, il demande une collaboration, il veut faire les choses avec nous, pas pour nous. Dieu veut faire les choses avec nous, pas pour nous. Alors, parfois, c'est un petit peu difficile à comprendre, parce que quand on commence à marcher avec Dieu, Dieu, il prend soin de nous comme si on était un petit enfant. Il dit, va pas là, fais pas ça, attention à ça, Mais alors qu'on grandit dans notre foi, le vrai désir de Dieu, c'est de nous voir devenir des chrétiens matures, qui soient capables de prendre des décisions à la lumière de sa parole. Amen. Pour finir, je voudrais bien aborder avec vous l'histoire d'un prêtre qui a vécu de 216 à 277 après Jésus. Et il prêchait une doctrine assez bizarre aussi, assez particulière. Il s'appelait Mani. Mani. M-A-N-I. Il a eu beaucoup d'influence dans l'Église parce qu'il avait créé vraiment un système dualistique. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a l'esprit et la matière, le bien et le mal. Il y a Dieu et il y a Satan. Pour Mani, la terre était le domaine de la lumière, que le mal est venu envahir, mais le bien triomphera. Pour Mani, Dieu était l'entité du bien et Satan était l'entité du mal. Comme de nombreuses hérésies, Mani, ce qui a inventé, qui est l'auteur du manichéisme, enfin, voilà, c'est, influence notre réflexion, et dans beaucoup de milieux chrétiens, les gens donnent à Satan une place et une puissance qu'il ne possède pas bibliquement. La parole, elle n'est pas dualiste dans sa pensée. Dieu, il se bat pas contre Satan. Satan n'est pas l'équivalent de Dieu, mais une de ses créatures aux capacités restreintes et limitées. Il y a peu de versets qui sont consacrés à Satan dans la Bible. Seul Dieu est omniscient et il sait tout. Seul Dieu est omniprésent et est partout en même temps. Seul Dieu est omnipuissant, omnipotent. Il est tout puissant, il peut faire toutes choses. Seul Dieu est souverain et toute chose doit se passer selon les choses qu'il a fixées. Il y a deux passages dans la Bible, dans 1 Samuel et 1 Roi, oui c'est ça, 1 Samuel et 2 Rois, pardon, qui racontent la même histoire, mais de deux façons différentes. Un des versets explique que Dieu envoya un mauvais esprit pour tourmenter un roi. Ça, c'est la version d'un des deux livres. L'autre dit, Satan à la tourmenter un des rois. Alors pour beaucoup d'hommes qui ont étudié la Bible, c'est de là que vient cette pensée un petit peu dualiste. C'était du devoir, pour eux, ils lisaient ces versets-là et voyaient une collaboration entre le bien et le mal. Ah, en fait, c'est Dieu qui envoie le mauvais esprit, donc Dieu, mais non, Dieu n'envoie pas les mauvais esprits. Dieu est souverain, il y a rien qui se passe sans que lui ait fixé son accord. Maintenant, s'il y a des mauvaises choses qui se passent, la permission, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. La seule chose qui limite Dieu, c'est lui-même. Et donc, comme il a décidé de laisser ce monde pouvoir se régir lui-même, en fait, il nous a donné à nous la direction du monde. S'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, c'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est pas pour ça que Dieu n'est pas souverain. Si on prend la place et le rôle qu'on met à Satan dans la crucifixion de notre Sauveur Jésus, il est marqué bibliquement que Satan cherchait à faire tuer Jésus. Mais si Satan avait compris comment la mort de Jésus allait sauver l'humanité, personne ne se serait jamais approché de Jésus. Donc Dieu, dans sa souveraineté, est capable d'utiliser l'ennemi, mais c'est pas pour ça qu'il en est l'auteur. Je voudrais bien finir par la pensée biblique, pour nous rafraîchir la tête. La parole nous présente Dieu comme le Tout-Puissant, qui a des plans à l'échelle de l'histoire de l'humanité, et qui contrôle absolument tout. Il guide les événements pour que ses plans parfaits se réalisent. Il a également des projets pour chacun d'entre nous qui s'inscrivent dans la perspective du royaume. Le salut apporte quelque chose de phénoménal dans notre vie. Ça apporte une dimension de collaboration avec le Saint-Esprit. Nous pouvons choisir d'écouter la volonté de Dieu pour notre vie ou pas. Ce n'est donc pas forcément la volonté parfaite de Dieu qui se réalise sur la terre, car nous avons un rôle à jouer, mais à la fin, c'est quand même Dieu et son plan qui arrivera à terme. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on peut passer à côté de certaines promesses de Dieu. On peut passer à côté d'une guérison, d'une parole prophétique. On peut avoir quelqu'un qui nous proclame des choses et elles ne se mettent pas en œuvre parce qu'on choisit différemment. C'est possible, ça. Si la volonté de Dieu se réalisait spontanément, nous ne prierons pas. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le naturel, ici sur terre, on récolte ce qu'on sème. C'est un principe qu'on connaît très bien en ce qui concerne les choses mal. Ou même les choses du monde. Si je mange trop, mon ventre gonfle. Action-conséquence. Donc je dois faire attention à ce que je mange. Et lorsqu'il est extraordinaire avec Dieu, des actes bons comptent pour lui énormément. Si on a un rapport de 1 à 1 dans le monde terrestre, tu fais un truc mal, mais tu auras un truc mal en retour. Avec Dieu, c'est génial. La dimension de l'alliance que Dieu a pour nous est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Lorsque la faveur de Dieu repose sur une personne, c'est toute sa maison et son entourage qu'il bénéficie. Ça, c'est ce que la Bible nous indique. Le futur glorieux de Dieu dépasse largement notre entendement. À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, Dieu montre que le temps n'est pas figé pour lui. Il peut avancer ou retarder les choses. On peut perdre du temps par nos distractions, nos négligences, nos désobéissances. Moi, j'espère que toutes ces choses ne vous cassent pas le cerveau. Mais c'est parce que je vois bien qu'on ne tombe pas dans un piège, pas dans une passivité par rapport à notre vie. Pas passer dans un déterminisme. De toute manière, si ça m'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Pas toujours. Attention. Nos prières, elles sont précieuses et elles peuvent changer le cours des événements. Amen. Amen. Pour ne pas tomber dans le piège de la dichotomie, pour ne pas tomber en pensant corps et âme, prière et action. L'action est tout aussi importante que la prière, et la prière est tout aussi importante que l'action. La prière et nos actions peuvent vraiment changer le cours de l'histoire. Amen. Amen. Alors moi, c'est le message que je voulais partager avec vous. C'était un petit peu de réfléchir, est-ce que parfois j'ai fait preuve de défaitisme dans la façon dont je percevais la vie? Est-ce que j'ai laissé les choses prendre leur cours parce que si elles se prenaient comme ça, ben c'est Dieu qui l'a voulu. Mais si on regarde ce que la parole de Dieu nous indique, la volonté parfaite de Dieu ne se réalise pas toujours. Mais Dieu, il est toujours disponible quand on a besoin de lui. Amen. Amen. C'est un petit peu une question de point de vue. Nous, les chrétiens, on a le point de vue du royaume. On a un point de vue céleste. Et tous les gens autour de nous, ils ont un point de vue du monde. Et c'est un petit peu bizarre, parce que quand je parle à quelqu'un avec un point de vue du monde, il ne comprend rien de ce que je veux dire. S'il y a un truc mauvais qui m'arrive, il va me faire « Oh là là, ah ben c'est dommage, hein, c'est la vie. » Non, c'est pas la vie. Ça, c'est non, c'est ta vie, pas la mienne. Hein. Moi, je connais mon Dieu, je sais qu'il est avec moi, je sais les promesses qu'il a pour moi. Amen. Et c'est un petit peu cette attitude, cette lumière-là qu'on doit amener dans le monde. Ce changement de pensée, ce changement d'ordre établi. Vous savez, Jésus, il a parlé du royaume de Dieu plus que beaucoup d'autres choses. Et un peu cette mentalité, le royaume de Dieu est déjà avec vous. On est chacun des petits royaumes de Dieu sur pattes. Amen. Donc, à chacun, on doit amener, pas seulement dans notre cœur, pas seulement dans notre attitude, mais même dans notre intelligence, il faut avoir cette mentalité du royaume. Amen. Où on ne se laisse pas faire par les événements, mais on réagit dans la prière et dans l'action. Avec la sagesse de Dieu. On n'est pas des chrétiens passifs ou des chrétiens immatures. On veut compter sur les choses de Dieu, les choses qu'il nous a promis. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'on arrête, mais on va au contraire continuer. Amen. Amen. Voilà, je voudrais finir par la prière, en particulièrement prier que le Saint-Esprit nous renouvelle notre pensée. Parce que, à nouveau, je le répète, Jésus, il dit juste, viens et suis-moi. Et le reste, il suivra. Amen. Amen. Seigneur Tout-Puissant, on veut te remercier pour ta parole qui est littéralement une lampe à nos pieds qui nous